Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Fabrice Nadjari, que j'ai rencontré à New York. Et avec Fabrice, on se pose plein de questions sur plein de sujets. Et entre autres, je pense qu'il y a un sujet où on n'est pas que deux à se poser la question, qui est la spiritualité, la quête de spiritualité. Je pense que c'est un mouvement sociétal qui est hyper important, qu'on retrouve un peu partout, qui est, je pense que c'est l'un des mouvements les plus importants du 21e siècle, en réalité. Cette quête de spiritualité, qui pour moi est liée à trois choses, qui est... ou qui sont plutôt le fait de vivre dans des grandes villes qui rendent forcément seul, la perte de la famille, ou en tout cas la perte de la famille où on l'entendait comme avant, c'est-à-dire où il y avait le grand-père, la grand-mère, etc. Et aujourd'hui, on est dans des familles beaucoup monoparentales, famille nucléaire ou monoparentale. Et puis aussi la perte de spiritualité, en tout cas la chute, en tout cas en Occident, des croyances religieuses. Et donc ces trois choses-là impliquent effectivement un manque d'enracinement et donc une quête spirituelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on le retrouve aussi dans le milieu corporate. Typiquement, je connais bien le directeur digital du groupe France Télévisions, qui se trouve être aussi prof de yoga, donc déjà je trouve ça intéressant, et du coup fait à son codir il a aménagé une salle de réunion et dans son codir ils font du mindfulness, de la méditation, ils donnent des cours de yoga à son codir. Donc en fait on voit bien qu'il y a des mondes qui s'imbriquent. Et toi je sais que t'as un peu réfléchi aussi là-dessus sur cet aspect spirituel, cette quête spirituelle. Alors peut-être que tu n'as déjà pas la même vision que moi sur le pourquoi du comment, mais aussi sur l'implication de ça dans le milieu corporate. Je ne sais pas si ça te lance de la bonne manière.
Mais... Si, c'est une très bonne entrée en matière. Juste pour dire deux mots sur ma connexion au sujet de la spiritualité en général. Mon métier est de faire de la stratégie de contenu. Je suis basé aux États-Unis, en particulier en Californie, à Los Angeles, qui est un des endroits, on va dire, où la spiritualité est exprimée de manière assez libre et parfois un petit peu véhémente. Mais une partie de mon travail en tant que content strategist est liée évidemment aux tendances et à l'anthropologie culturelle. Et donc je suis amené très souvent à m'interroger sur ces grandes lames de fond auxquelles, en tant qu'individu, entrepreneur ou membre d'une organisation, travailleur, on assiste au quotidien. Et c'est vrai que, comme dans toutes les périodes, on va dire, à forte... croissance technologique et vraiment le 21e siècle, c'est le siècle où l'avènement de la technologie on va dire, est le plus perceptible de manière globale.
On peut dire qu'on vit une révolution industrielle. Hein,
on vit une nouvelle révolution industrielle. Et comme dans toutes ces périodes de révolution industrielle, on assiste, et là je modifierai légèrement ce que tu as dit en préambule, mais on assiste à un retour global du religieux et du spirituel. Parce que finalement, il faut distinguer un peu les deux, dans le sens où on peut avoir une spiritualité séculaire, c'est-à-dire déconnectée des dogmes religieux, mais qui en fait est l'expérience à la fois de la connexion de soi et de la connexion à la transcendance. Et pour moi, il y a plusieurs éléments derrière ça qui sont assez intéressants. On a parlé beaucoup, et je pense dans ce podcast aussi, de cette grande tendance de fond du well-being, du bien-être, de la wellness. Et je pense que, en tout cas la manière dont je vois les choses, c'est que le bien-être, il y a vraiment cinq composantes à mettre derrière ça. Il y a évidemment tout ce qui est bien-être physique, corporel, de bien-être émotionnel, le bien-être social, le bien-être professionnel et le bien-être spirituel. Et quelque part, je dirais que cette notion de bien-être, pour moi, elle est vraiment à considérer dans un sens complètement holistique, avec tout ce qui est évidemment développement personnel et spiritualité, puisque finalement ça s'inscrit dans un contexte de résurgence du religieux. Et on le voit d'ailleurs, enfin notamment en Chine où pendant des années le religieux a été étouffé, d'abord par Mao puis le communisme, et là on assiste à une montée en puissance énorme des églises, des cultes, idem en Afrique avec toute la question des églises évangélistes, etc., etc. Donc
Moi, je parlais plus de l'Occident.
Voilà, mais en général, d'une certaine manière, il y a vraiment la question du fait religieux dans nos sociétés. Et à côté de ça, comment est-ce que en dehors du dogme, on se positionne par rapport à la spiritualité dans un contexte où on se sent déconnecté et de soi-même et des autres, on va dire à cause de la technologie. Pour moi, il y a plusieurs signaux forts qui quelque part sont des indicateurs de la montée du sujet de la spiritualité dans nos vies et en particulier aussi dans le milieu corporate, puisque c'est de cela dont on veut parler aujourd'hui. Et c'est je pense autour de ces différents sujets qu'on va échanger. Une des choses auxquelles j'ai assisté aux États-Unis, alors évidemment tu parlais de yoga, de pilates, de méditation, et c'est vrai qu'on voit petit à petit ces disciplines arriver dans le monde de l'entreprise, et je dirais que c'est un peu la manière douce pour se redéconnecter à soi-même, à son corps, etc.
Maintenant, il y a des chief happiness officers, il y a des personnes qui viennent dans l'entreprise, en particulier dans les coworking space, où il y a des well-being officers, ou en tout cas des gens qui s'occupent de faire ce genre de choses, en fait, typiquement. Donc,
ça commence à arriver. Je dirais, c'est la couche, entre guillemets, superficielle, qui est la traduction occidentale de savoir millénaire, qu'on a un petit peu redéfini à notre propre sauce, et qu'on réadapte quelque part aux besoins du cadre moderne qui est stressé, qui n'arrive pas à avoir de perspective sur sa vie ou sur son travail, qui est crevé à cause des rythmes infernaux qu'un capitalisme qu'on pourrait presque qualifier de sociopathique par moment impose sur l'individu. Donc ça, je dirais, c'est la première couche. Mais après, quand on gratte un peu, évidemment, cette volonté que les compagnies ont de se doter d'un chief happiness officer, chief wellness officer, va dans ce sens-là. Mais à côté de ça, il y a des choses beaucoup plus, quelque part, profondes qui sont en train de se passer, et notamment en Californie. Et je pense notamment à toute la tendance de l'utilisation des plantes à la fois comme traitement préventif, comme manière de se connaître soi-même mieux, et puis comme manière d'être connecté et de faire l'expérience de la transcendance. Et on a vu depuis à peu près 2 ans maintenant l'avènement d'une tendance dont j'imagine, Grégory, tu aurais dû entendre parler dans la Silicon Valley, qui s'appelle le microdosing.
Alors, je vois bien ce que c'est que le microdosing, mais je veux bien que tu l'expliques, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant du microdosing.
Donc, en gros, le microdosing, c'est un process qui consiste à prendre chaque jour, pendant une période déterminée, probablement d'un mois ou deux, des doses subperceptibles de psychédéliques. Et donc, en général, c'est fait avec deux produits, soit la psilocybine, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes, soit l'acide lysergique que le grand public connaît sous le nom du LSD. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on va pas faire un trip d'acide ou de champignons tous les matins, mais on va prendre une dose qui n'est pas perceptible au sens des effets psychotropes, mais qui va permettre de libérer la créativité, de se sentir connecté, de se sentir plus en soi-même, plus en phase avec son corps, ses émotions, qui va permettre de développer la compassion, etc., etc. Et il y a tout un tas d'études scientifiques, notamment sur la psilocybine, qui montrent que cette molécule est extrêmement puissante pour tout un tas de domaines. Ça va du traitement des addictions au traitement des stress post-traumatiques, etc., etc. Donc, un certain nombre de gens, et là on parle vraiment de dirigeants de la Silicon Valley.
Pas non, parce que c'est ça, parle pas de créatifs un peu bizarres.
Ou alors de gens qui sont dans le Hare Krishna le plus total. Et
on parle des patrons de la Silicon Valley.
On parle de patrons de la Silicon Valley qui en gros, ont optimisé leur bien-être à travers ces plantes médicinales. Donc le microdosing est un exemple, mais il y a aussi tout un tas de hype autour de plantes sacrées. On en a commencé à en parler un petit peu en Europe, notamment l'ayahuasca, qui est énormément utilisée par des chefs d'entreprise, notamment en Californie, mais je dirais aux États-Unis en général. Et l'ayahuasca, c'est cette plante sacrée des Indiens Amazonie qui, en gros, vous offre 10 heures de vision, mais une plongée en soi, comme peu d'expériences humaines peuvent le permettre. Et on dit souvent qu'une nuit d'ayahuasca, c'est 10 ans de psychanalyse condensée en une expérience.
C'est évidemment c'est fait pour New York, en fait.
Oui, c'est évidemment pas à mettre entre toutes les mains, puisque c'est une expérience qui est en soi, on va dire, éprouvante, difficile, et où on est amené à affronter aussi bien les éléments sublimes que les éléments les plus noirs de son individualité. Mais ça, c'est de plus en plus utilisé par un certain nombre d'esprits éclairés comme manière de prendre du recul, de mieux se connaître et simplement d'avancer, de devenir des meilleurs êtres humains.
Et alors, à ce stade, peut-être que les gens qui écoutent, on a l'impression qu'on a une discussion qui est complètement hallucinante. Et en même temps, j'ai un ami qui est dans l'un des plus gros fonds de la Silicon Valley. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que tu parles de corporate, c'est qu'en fait, ils ont emmené tous les gens qui étaient, en l'occurrence, chez Sequoia. Donc, tous les start-upers de chez Sequoia, et ils ont tous fait une séance d'ayahuasca ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces séances, effectivement, d'ayahuasca, et c'est vrai qu'on a quand même cette image des médias qui est, quand tu prends de l'ayahuasca, tu peux mourir, quand tu prends de l'ayahuasca, tu vomis, enfin, tu vois, c'est pas très sexy, on va dire. Et en fait, en même temps, enfin, sur ce côté corporel que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils le font ensemble. C'est-à-dire qu'on pourra imaginer demain, alors, je sais pas si c'est demain, mais des comités de direction, qui vont faire une séance d'ayahuasca ensemble.
Ben, je peux déjà te dire que ça existe. Et puis, petite parenthèse, en fait, tu peux pas mourir avec l'ayahuasca, parce que le principe actif de l'ayahuasca...
Bien sûr.
Mais juste pour préciser ce point-là, le principe actif de l'ayahuasca, le DMT, il faudrait l'ingérer en dose 150 fois supérieure à un trip normal, entre guillemets, d'ayahuasca pour mourir, alors qu'il faut une dose seulement 10 fois supérieure d'alcool,
on
va dire d'un trip d'alcool, pour mourir avec ça. Donc, juste pour donner les proportions. Mais effectivement, je pense que ces molécules et ces plantes sont tellement puissantes que des gens qui sont assez avancés dans et qui, quelque part, sont capables de tirer un peu le meilleur de ce que cette planète peut offrir, tout en ayant l'impression de rester un pas en avant de tout un tas de gens, et bien effectivement, vont tester ces choses. Et je pense que de manière plus générale, on assistera très rapidement, donc peut-être d'ici 5 à 10 ans, à l'avènement non plus de Chief Happiness Officer ou de Well-Being Officer, de Head of Well-Being, mais à vraiment la naissance de ce que j'appelle des corporate shamans, mm-hmm. c'est-à-dire des gens qui sont capables d'intégrer ces sciences millénaires d'usage de plantes à vocation de développement personnel, mais aussi quelque part de développement organisationnel et corporate, parce que ces plantes permettent aussi d'avoir une réflexion stratégique, de se donner de la perspective sur les problèmes qu'on rencontre au quotidien, etc. etc. Donc, il y aura vraiment cette connexion entre un certain nombre de savoir-faire ancestraux, que ce soit la mindfulness, la méditation, le yoga et la connaissance du corps, et les plantes, je dirais, comme usage à la fois préventif et thérapeutique. Et voilà, et ce sera une manière d'intégrer cette dimension holistique de manière très très pragmatique dans les organisations. Et je pense qu'on y est quasiment là. Je vais te donner un exemple qui est super intéressant pour moi. J'ai beaucoup travaillé sur la question du futur du travail. Mmh. Évidemment, une des problématiques autour de cette question, c'est toute la je dirais le questionnement sur les lieux de travail. Mmh. Où est-ce que les gens vont travailler dans le futur ? Et évidemment, on a vu la naissance de ces empires autour du coworking space, WeWork, etc. Et avec ça, cette idée qu'on n'est plus dans un phénomène de d'équilibre entre la vie et le travail, mais dans un phénomène d'intégration entre la vie et le travail. Mmh. Et à New York a été créé il y a 6 mois. Un nouveau lieu qui s'appelle The Assemblage et qui est un peu comme Soho House, c'est-à-dire un lieu de coworking où les gens viennent
Tout le monde connaît Soho House, mais
enfin en tout cas, je dirais un lieu de coworking où les gens viennent organiser un certain nombre de réunions et puis viennent travailler. Sauf que ce lieu, The Assemblage, est vraiment complètement tourné autour de la dimension spirituelle. C'est-à-dire que toute la nourriture est ayurvédique, il y a des salles de méditation, il y a des conférences et tout un public programming autour de la médecine par les plantes, de l'ayahuasca, des expériences transcendantales. Et donc vraiment, c'est comment est-ce qu'on amène cette question de la spiritualité. Et c'est pas la spiritualité au sens du vieillard à barbe blanche sur un nuage au-dessus de nous, mais c'est vraiment la spiritualité dans ce qu'elle nous permet de nous connecter à nous-mêmes et de nous connecter aux autres. Donc encore une fois, cette notion de spiritualité déconnectée d'un dogme religieux. En tout cas, le fait que ce soit maintenant incorporé au sein d'un espace de coworking qui est un des espaces les plus demandés à New York et qui vient de lever 25 millions de dollars, dont une dizaine de millions par les investisseurs de WeWork, me montre, enfin je le prends en tout cas comme un signal fort, qu'on va vraiment assister à une présence de plus en plus forte de cette notion du spirituel dans le corporate. Donc que ce soit sur un point de vue organisationnel, sur un point de vue technologique aussi, puisque finalement on voit maintenant que des technologies comme la réalité virtuelle sont mises au service du spirituel, avec des expériences qui servent à nous reconnecter à nous-mêmes, à devenir plus empathiques, à mi-chemin vraiment entre le thérapeutique et le holistique, avec des expériences très immersives qui nous permettent de toucher on va dire un certain aspect transcendantal de l'être humain, à la fois au niveau des dirigeants, mais aussi au niveau, je dirais, du bas de l'échelle et des employés, Finalement, les gens se rendent compte que bah, s'ils casent une heure de yoga ou une demi-heure de méditation par jour, bah, ils vont simplement se sentir mieux, plus en connexion avec eux-mêmes, plus détachés par rapport à, aux problématiques quotidiennes. Donc, c'est un peu ce double mouvement auquel je pense on va assister de manière de plus en plus.
Et puis, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix parce que quelque part, et on le vit tous les jours, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre, toi, moi, n'importe qui, où les gens se disent, mais en fait, c'est quoi le sens de ma vie? Enfin, je vais au travail tous les jours, le métro, boulot, dodo, etc. Est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire? Et enfin, parce que je pensais que si je gagnais autant d'argent, bah, je serais vachement plus heureux, mais maintenant que je le gagne, bah, en fait, il se passe rien, etc., etc. Les gens se posent des questions sur ce système capitaliste dont tu parlais tout à l'heure. Alors, on n'est pas des énormes communistes non plus, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions sur ce système capitaliste, qui envisagent le vivre autrement. Il y a une vraie grosse tendance du retour à la terre, évidemment. Et quelque part, finalement, j'ai la sensation que c'est inévitable, pas tant que ça fasse du bien à l'organisation, c'est-à-dire je suis pas sûr que quand tu prennes de l'ayahuasca ça te permette de résoudre des problématiques purement professionnelles, mais que par contre t'as besoin d'accompagner les gens dans leur quête personnelle pour qu'ils se sentent bien au travail.
Bien sûr, et enfin tout ça pour moi est lié, c'est-à-dire qu'un dirigeant qui est davantage connecté avec lui-même, qui est plus humain, qui est plus empathique, qui quelque part est clair dans sa vision du monde et sa vision de son organisation, et c'est ça que permettent aussi ces plantes, eh bien, sera simplement un meilleur leader. Ouais. Et on a tout intérêt à faciliter et permettre et accompagner les conditions qui vont faire que les gens qui dirigent nos structures professionnelles se développe harmonieusement et je veux dire, dans le respect de l'humain et dans le respect d'eux-mêmes.
Génial. Et alors du coup, alors je sais pas si ça tombe bien cette question étant donné le sujet, mais ce podcast il s'appelle Blanc. À quoi tu voudrais mettre une claque douce?
Une claque qui serait aussi une caresse.
C'est ça.
Je voudrais mettre une claque à cette vision de la spiritualité comme étant presque un mal nécessaire, c'est-à-dire quelque chose de à la fois déconnecté, un peu désuet, réservé à des gens qui n'ont pas à affronter les soucis du quotidien. Je pense que la spiritualité est quelque chose d'important, qu'elle se vive d'ailleurs, encore une fois, en dehors ou dans le cadre d'une religion, et que quelque part, après des années de focus et d'errance dans des sociétés qui sont quand même très fondées sur l'individualité et sur l'ego en général, faire l'expérience de la connexion à soi-même, de la connexion aux autres et de ce que je dirais la transcendance peut faire de nous des meilleurs êtres humains et des meilleurs professionnels.
Génial, merci beaucoup.
Merci à toi, Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlant, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.